France Culture.
Bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. L'émotion des familles d'otages en Israël après la libération de 3 otages israéliens par le Hamas ce matin. Ofer Calderon, Kay Siegel et Yarden Bibas ont été libérés par le Hamas. Nous serons en direct de Tel Aviv où la foule a suivi en direct ces libérations lors de cérémonies finement mises en scène par le mouvement islamiste palestinien. Après les promesses, les actes de Donald Trump qui lance bel et bien sa guerre commerciale contre le Mexique, le Canada et la Chine. Accusé notamment par le président américain de ne pas suffisamment lutter contre le trafic de fentanyl. Nous reviendrons sur la copie du budget 2025, issue hier de la commission mixte paritaire. Est-elle pire que celle du gouvernement Barnier ? C'est ce que prétend en tout cas la France insoumise. Enfin, on s'intéressera à l'attractivité des ports français après la décision de 2 armateurs de ne plus desservir les 2 premiers ports français de conteneurs, ceux du Havre et de Marseille-Fos. Notre invité est Paul Touré, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. La liberté, après 16 mois de captivité, 3 otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza ont été libérés ce matin. Le franco-israélien Ofer Calderon, l'israélo-américain Kay Siegel, ainsi que l'israélien Yarden Bibas, qui ont été libérés à Ran Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Cette libération est un rayon de lumière au milieu des ténèbres, offrant de l'espoir et faisant la preuve du triomphe de l'esprit humain, s'est réjoui le forum des familles d'otages en Israël. Bonjour Valentin Dunat.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Tel Aviv, sur la place des otages, où ces libérations ont été accueillies par des cris de soulagement.
En effet, pour les Israéliens et plus particulièrement pour les familles d'otages présentes ici, ces images font toujours chaud au cœur. Celle notamment d'Ofer Calderon, qui est sorti tout à l'heure de l'ambulance devant l'hôpital, qui a souri, levé les bras, applaudi, salué par des cyclistes. Ce père de famille était très connu dans le monde du cyclisme en Israël. Il est en ce moment avec ses 2 enfants, Sar et Erez, 12 et 16 ans, avec qui il avait été enlevé le 7 octobre et libéré, ses enfants, lors de la première trêve en novembre 2023. Évidemment, traumatisés sans leur père qu'ils sont en train de retrouver en ce moment. Ces images, ces retrouvailles tranchent avec la situation de Yarden Bibas, 34 ans. Cette famille est devenue le symbole de la lutte pour la libération des otages. Yarden Bibas libéré donc tout à l'heure, sans sa femme, son fils de 5 ans et Kfir, le bébé de 2 ans, désormais tous probablement morts. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le Hamas à ce père de famille il y a plus d'un an. Le troisième homme libéré a également la double nationalité, vous l'avez dit. Il est américain et israélien. Kis Sigal, 65 ans. C'est le premier américain de la liste à être libéré. Il est apparu affaibli, escorté par 2 hommes armés sur le port de la ville de Gaza. Kis Sigal a pu retrouver sa femme Aviva, détenue 51 jours avec lui. Ces 3 ex-otages vont être placés en observation à l'hôpital plusieurs jours. Notez que depuis le 19 janvier, 18 otages ont été libérés. Ils sont 12 encore vivants à devoir sortir avant la fin de la première trêve. Parmi eux, le dernier franco-israélien encore retenu à Gaza, Oad Yahalomi, son fils de 12 ans, Ethan, avait lui aussi été libéré lors de la première trêve.
Valentin Dunat, en direct de Tel Aviv, avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Emmanuel Macron a lui aussi réagi à la libération d'Ofer Calderon. Nous partageons le soulagement et la joie immense de ses proches, écrit le président de la République, qui rappelle que la France met tout en œuvre pour parvenir à la libération de Oad Yahalomi, l'autre otage donc franco-israélien toujours détenu par le Hamas. 183 détenus palestiniens doivent être libérés cet après-midi dans cet échange, dont 150 à Gaza. Il s'agit donc du 4e échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens depuis le début de la trêve, le 19 janvier, entre Israël et le Hamas. En tout, 15 otages, 10 Israéliens et 5 Thaïlandais, ainsi que 400 prisonniers palestiniens, ont déjà retrouvé la liberté. Et la précédente libération d'otages, qui s'est déroulée dans des conditions qui ont suscité la colère d'Israël, les otages devant affronter une foule hostile à Gaza, rien de tout cela ce matin. Des dizaines de combattants et cagoulés du Hamas ont escorté les otages au cours d'une cérémonie très rapide et devant un public réduit. Bonjour Éric Biegela.
Bonjour.
Une mise en scène au cours de laquelle le mouvement islamiste palestinien a démontré une certaine structuration.
Oui, le décorum mis en place était à vrai dire impressionnant. À Ran Younes, où ont été relâchés Ofer Calderon et Yarden Bibas, quelques dizaines, peut-être une centaine d'hommes du Hamas, entrés militaires, encagoulés de noir, le front ceint du bandeau vert, signe distinctif, et tous armés, ont accompagné la relaxe, pas ou peu de public palestinien, mais beaucoup d'hommes en armes donc, alignés, disciplinés, au garde-à-vous pour certains, avec une chorégraphie bien réglée, les otages se présentant l'un après l'autre sur une petite estrade, saluant la foule, on a bien sûr exigé d'eux qu'ils le fassent. Même scénographie pour la libération de l'américano-israélien Keith Siegel sur le port de Gaza, avec cette fois-là encore davantage d'hommes en armes, plusieurs centaines de combattants du Hamas, peut-être un millier, de l'ordre d'une brigade, c'est évidemment une démonstration de force, à vrai dire. Les trois objectifs du gouvernement israélien, c'est une démonstration assez impressionnante parce que détruire militairement le Hamas, c'était l'un des trois objectifs du gouvernement israélien. Les deux autres étant de détruire également l'administration du Hamas à Gaza et de rapatrier tous les otages. Force est de constater que les forces militaires du Hamas sont encore bien présentes. Le déploiement public de ce matin est là pour le prouver. Quant à l'administration de Gaza, l'organisation très stricte et la mise en scène de la relaxe des trois otages démontrent également que c'est bien le Hamas qui est et qui reste aux commandes, probablement pas partout dans la bande de Gaza, mais à Gazaville et à Khan Younes, les deux principales agglomérations de l'enclave, c'est manifestement le cas.
Éric Biegala, après des semaines de menaces, Donald Trump a confirmé hier l'imposition de 25% de frais de douane au Mexique et au Canada. Concrètement, plusieurs produits exportés aux États-Unis par ses voisins d'Amérique du Nord doivent être taxés à partir d'aujourd'hui. Après la signature de décrets par le président américain qui a cité les semi-conducteurs, l'acier, le cuivre ou encore les produits pharmaceutiques. Et au Mexique, qui réalise 80% de son commerce extérieur avec les États-Unis. Cette annonce pourrait avoir d'immenses conséquences sur l'économie, Gwendolina Duval.
Le ministre de l'économie mexicain parle de ces frais comme d'une erreur stratégique qui aura un impact principalement sur les Américains avec l'augmentation des prix. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Mexique veut garder la tête froide. Ce sont les termes de la présidente Claudia Sheinbaum. Hier, alors que la décision était en train de se préciser, la chef d'État a dit que son pays était prêt, se voulant une fois de plus rassurante et rationnelle.
Nous allons toujours maintenir le dialogue et nous avons un plan A, un plan B et un plan C. Mais c'est très important que les Mexicains sachent que nous allons toujours défendre la dignité de notre peuple. Nous défendrons le respect de notre souveraineté et un dialogue d'égal à égal.
Des négociations donc face à un sacré coup de pression du président américain qui veut stopper la migration et le trafic de drogue, Gwendolina.
Ces derniers mois, le Mexique a fait des efforts considérables sur le plan sécuritaire. Et même la Maison-Blanche l'a reconnu. 10 000 personnes ont été arrêtées et plus de 90 tonnes de drogue ont été saisies. Ce sont des records. Mais Donald Trump ne s'intéresse pas aux chiffres. L'instauration de ces frais montre aussi que les négociations sont toujours ouvertes entre les deux gouvernements. Sur le plan migratoire, par exemple, même si le Mexique concède à recevoir ses citoyens expulsés, la question des personnes des autres nationalités est encore flou.
Gwendolina Duval, correspondante de France Culture à Mexico. Donald Trump, qui devrait aussi signer un décret pour imposer des tarifs douaniers de 10% sur les importations en provenance de Chine. Et l'Union européenne n'est pas en reste, puisque le président américain prévoit également d'imposer prochainement des droits de douane aux produits européens. Un incendie a fait 3 morts ce matin dans un EHPAD de Bouffémont, dans le Val d'Oise. 3 résidents sont décédés parmi les 70 à 80 que compte l'établissement. Il sera soumis au vote de l'Assemblée nationale lundi à 16h, après l'accord trouvé entre députés et sénateurs hier en commission mixte paritaire sur le budget 2025. Un budget dont la copie avait entraîné la censure du gouvernement Barnier, on s'en souvient. Et si les socialistes se targuent d'avoir amoindri les souffrances, d'après les mots de Boris Vallaud, l'insoumis et président de la commission des finances, Éric Coquerel, y voit lui un texte pire que le budget Barnier. Marie Vénot, quelles sont donc les principales évolutions ?
Par rapport au budget Barnier, le texte issu de la CMP prévoit moins de recettes et en face plus de réduction de la dépense. 6,2 milliards en moins d'un côté, 6,4 milliards en plus de l'autre. C'est un budget austéritaire, juge ainsi le président de la commission des finances, Éric Coquerel, LFI, qui a dévoilé ce calcul. Côté baisse de la dépense, c'est le budget de l'écologie qui prend la plus grande part. 1 milliard de crédits en moins comparé au budget Barnier, mais 300 millions de plus qu'avant la CMP. Le budget de l'agence bio reste finalement intact, contrairement aux vœux des sénateurs, et le fonds vert qui finance les investissements des collectivités locales pour la transition écologique n'a pas été autant réduit qu'il le souhaitait. Impossible de savoir à ce stade qui va pâtir concrètement de ces coupes, mais c'est massif, car si on compare au budget 2024, l'écologie perd 2 milliards d'euros. Pour l'éducation, la suppression de 4000 postes d'enseignants n'est plus à l'ordre du jour. Et pour l'aide médicale d'État, le budget baisse de 111 millions d'euros comparé au projet de loi de finances initiale. C'est moitié moins que le texte issu du Sénat. Côté recettes, le taux de la taxe sur les transactions financières passerait de 0,3 à 0,4%. La taxe sur les billets d'avion est maintenue, ainsi que la contribution sur les hauts revenus. L'augmentation de la fiscalité pour les 440 plus grandes entreprises reste aussi, mais pour un an seulement et pas deux, comme l'avait prévu le gouvernement Barnier. S'il passe, ce budget 2025 est donc un budget à courte vue qui ne règle en rien l'écart structurel entre les recettes et les dépenses de l'État. Et en 2026, tout sera à refaire.
Un budget 2025 qui fera vraisemblablement l'objet d'un recours au 49-3 lundi par le Premier ministre suivra donc une motion de censure. Les socialistes et les députés RN la voteront-ils ? Tous deux doivent se décider lundi. Faut-il s'inquiéter pour l'attractivité de nos ports français ? La question est relancée. Après la décision de deux compagnies maritimes de porte-conteneurs, le danois Maersk, deuxième armateur mondial, et l'allemand Hapag Lloyd, cinquième, de ne plus desservir directement les ports du Havre et de Marseille Fos, les deux principaux ports français de conteneurs. Décision effective à partir de ce mois de février. Seuls les bateaux plus petits, affrétés par ces armateurs, continueront d'accoster. Bonjour Paul Touré.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'ISMAR, l'Institut supérieur d'économie maritime. Alors comment expliquer cette décision de ces deux armateurs regroupés au sein d'une nouvelle alliance baptisée Gemini Coopération ?
Alors pour faire vite, il y a quelques années, le transport maritime conteneurisé s'est beaucoup consolidé. Très peu de groupes, 5, 6, 7 on va dire, d'importance, qui sont eux-mêmes en alliance. Et chacun essaye de faire un peu de la distinction. Et effectivement, ce regroupement germano-danois a choisi de faire plutôt des lignes directes de qualité, d'après ce qu'ils disent, vers des ports principaux, par exemple Rotterdam ou Anvers, et de traiter les ports français par des lignes secondaires, en garantissant dans leur discours une fiabilité que n'aurait pas leurs concurrents qui, eux, font beaucoup plus de ports et beaucoup plus de services.
Alors, à quelle perte d'activité faut-il s'attendre pour les deux ports français ? On sait qu'au port du Havre, les volumes traités ont diminué, par exemple, de 15% en 2023, 12% pour Marseille Fos.
Alors, c'est vrai qu'on a un marché français qui peut être un peu particulier. Il faut pas oublier, en plus, qu'il y a de la double comptabilité, parce que justement, ces bateaux qui font des petits va-et-vient rajoutent du trafic, notamment au Havre. On n'est pas forcément dans un déclin, on est dans une offre un peu différenciée. Il y a toujours le même nombre de navires, finalement, qui touchent, mais effectivement, il peut manquer des grands navires. Alors, les chargeurs qui représentent la marchandise peuvent être un peu déconcertés d'avoir un peu moins de connectivité. Le bilan n'est pas catastrophique, mais c'est toujours effectivement frustrant de perdre des lignes, ce qu'on appelle des lignes qui relie notamment le marché d'Asie, qui est un des plus importants au monde.
Donc il ne faut pas s'alarmer et en déduire que les ports français seraient moins compétitifs par rapport aux autres grands ports européens. On n'a pas de problème de compétitivité ou de connectivité même par rapport à ces grands ports.
La connectivité peut être un peu relative. Alors, il faut juger aussi la conteneurisation à l'échelle du commerce extérieur français. On est un grand pays d'importation. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de volumes qui passent aussi par Anvers. Peut-être 15 ou 20% des conteneurs qui sont importés en France, en tout cas des marchandises conteneurisées, peuvent passer par le port belge. Et puis, on est un pays qui n'est pas un grand pays d'exportation, même s'il y a les qualités de l'agroalimentaire, du luxe ou un ensemble de produits industriels. Donc, on a une connectivité et des ports qui sont à la hauteur de notre économie dans la globalisation. On a une économie qui est plutôt orientée finalement sur le marché européen que dans la globalisation. Et donc la connectivité est un miroir de cela. Donc c'est toujours pareil dans les ports français. Il y a un côté verre à moitié plein, verre à moitié rempli. Et on a tendance des fois à considérer un peu négativement. Mais pour finir, il ne faut pas oublier, on a quand même le numéro 2 mondial qui est CMA-CGM. On a MSC qui a de gros investissements, qui est le numéro 1 mondial, notamment au Havre. Donc le bilan n'est pas catastrophique.
Alors comment expliquer que les ports français restent toujours en queue de peloton, si on en croit les classements internationaux ?
Il manque notamment aux ports français ce qu'on appelle le transbordement, j'ai un peu expliqué avant, c'est-à-dire cette capacité d'avoir des conteneurs qui montent et qui descendent sur des navires et qui sont stockés très peu de temps. Et effectivement, on a des ports du Benelux ou des ports espagnols ou italiens qui, eux, ont cette grosse activité. Mais encore une fois, MSC, qui investit beaucoup au Havre, va sans doute faire plus de transbordement, donc une activité qui va être plus soutenue. Pour l'économie française, effectivement, on tourne sans doute autour de 3 ou 4 millions de conteneurs qui sont le miroir de ce commerce extérieur, un pays qui a ses qualités et ses défauts en termes de relations commerciales internationales. Et donc les ports sont à sa mesure, on va dire.
Merci beaucoup, Paul Touré. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ISMA, l'Institut supérieur d'économie maritime. Merci également à Aloïs Guérin pour la préparation de cet entretien. La décrue de la Vilaine se poursuit dans l'ouest de la France. Les départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de la Loire-Atlantique sont redescendus en vigilance orange. En déplacement à Redon, ce matin, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé que le dispositif d'état de catastrophe naturelle sera accéléré pour une vingtaine de communes touchées par les inondations. La météo avec un temps instable sur la région PACA et sur la Corse cet après-midi. Les averses seront fréquentes et le ciel restera nuageux également sur les Pyrénées. De belles éclaircies sont attendues sur le nord et le sud-ouest du pays. Comptez 4 à 8 degrés sur la moitié nord et le centre-est. 8 à 12 degrés sur le sud-ouest et près de la Méditerranée.